Les parts actualité.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les parts actualité du 22 février 2018. Hélène Denis avec vous et en manchette aujourd'hui, soutien aux parents d'un enfant handicapé, le cri du cœur d'une mère épuisée. Des préposées enceintes rappelées au travail. Liana Adam veut retrouver une partie de son autonomie. Résidence Elmwood, la direction dépose une plainte de pratique déloyale. Google développe un algorithme capable de diagnostiquer les maladies de l'œil. Et en entrevue, je reçois Sophie Bédard, stagiaire en sexologie au regroupement pour la trisomie 21, ainsi que Maxime Girard, fondateur de l'organisme Fondation 33. Nouvelle tirée de la presse, soutien aux parents d'un enfant handicapé, le cri du cœur d'une mère épuisée. Selon les médecins qui la suivent, Camille Larouche, âgée de 13 ans, est sourde. Elle a une déficience intellectuelle sévère, 4 scolioses, des difficultés comportementales significatives, une cécité partielle, des problèmes osseux qui lui donnent la taille d'une enfant. Elle ne contrôle pas ses selles, elle ne peut pas s'habiller, elle ne peut pas écrire en raison d'une malformation au poignet. Mais aux yeux du ministère québécois de la Famille, elle n'est pas une personne handicapée nécessitant des soins exceptionnels. Elle n'est donc pas admissible à un supplément de 963 $ par mois, une subvention mise en place par Québec en 2016 et destinée aux parents qui doivent assumer des responsabilités hors du commun en matière de soins particuliers. « Je suis épuisée et surtout écœurée », dit sa mère Valérie Larouche. Selon Retraite Québec, qui relève du ministère de la Famille dans les catégories soins personnels et responsabilité et éducation, Camille a certes une limitation absolue, compte tenu de sa déficience intellectuelle sévère. D'un point de vue nutritif, comme elle doit être encouragée et supervisée pendant qu'elle mange, afin d'éviter les étouffements, on lui reconnaît une limitation grave, tout comme en matière de communication. Mais parce que Camille peut marcher sans aide sur une distance de moins d'un kilomètre, et parce que pour une plus grande distance, elle utilise une poussette, elle n'a pas, selon le gouvernement du Québec, de limitation absolue ou grave à cet égard. Nouvelle tirée du site Radio-Canada, des parents d'enfants autistes réclament plus de services. Des parents d'enfants autistes continuent de manifester pour obtenir des services. Les 29 millions de dollars annoncés l'année dernière par le gouvernement du Québec n'ont rien réglé, disent-ils. Laurence Nadeau est la mère de Baptiste, 9 ans. Il y a 5 ans, son fils était complètement emmuré dans son monde. Aujourd'hui, il ne parle toujours pas et fréquente une école spécialisée pour les jeunes autistes. Si Baptiste bénéficie de services en ce moment, sa mère s'inquiète pour l'avenir. Et plus tard, quand ils seront adultes, et ceux qui le sont déjà, où va-t-on les mettre? On ne peut pas juste les garder chez soi jusqu'à notre mort. Devant le bureau de la ministre déléguée à la réadaptation, Lucie Charlebois, à Montréal, des parents en attente de service se sont joints au père de Charlotte, qui n'a pas accès à une orthophoniste. Le plan d'action présenté en mars dernier n'a aucun impact pour eux. C'est qu'on ne peut pas couper des services à certains pour en offrir à d'autres, soulève Electra Dalamaga, de l'organisme Autisme Montréal. Il y a très peu d'avancées. Il y a certaines régions qui sont privilégiées, mais ce n'est pas partout pareil, lance Catherine Salvaille de Coalition Autisme Québec. La ministre Charlebois reconnaît qu'il y a beaucoup à faire. On donne beaucoup plus de services qu'il y a un an et on va s'améliorer encore. C'est un plan sur 5 ans. Pour l'instant, c'est trop peu pour les parents et les organismes communautaires qui constatent même des pertes de services pour certains groupes d'âge. Le 29 millions, merci beaucoup. Mais c'est loin de répondre aux besoins de toute la population des personnes autistes, ajoute Mme Dalamaga. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Sophie Bédard, stagiaire en sexologie au regroupement pour la trisomie 21, RT21. Bonjour, Madame Bédard.
Bonjour.
Merci de vous être déplacée.
Ça fait très plaisir.
Alors, merci. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire un stage au RT21?
En fait, quand on devait choisir nos stages, on avait une liste de milieux qui nous étaient proposés, des milieux qui étaient disponibles pour accueillir des stagiaires. Puis le RT21 était dans ceux qui m'intéressaient parce que c'était une clientèle que je connaissais pas, puis je voulais un peu aller en dehors de ma zone de confort.
Ah ouais.
Puis ça a été la première entrevue que j'ai passée, ça s'est super bien passé. J'ai vu que le milieu était très enthousiaste, très accueillant. Des intervenantes très le fun, puis ils ont décidé de me prendre, donc j'étais très contente.
Bien, c'est fantastique, ça! Et vous êtes à votre dernière année de bac.
Oui.
C'est un stage de 2 sessions. Vous en êtes à votre première ou 2e session?
Je suis à ma 2e session.
Bon. Quels sont les besoins des jeunes adultes que vous avez côtoyés?
C'est des besoins, ça tourne beaucoup autour des relations amoureuses. Il y en a beaucoup qui sont en couple, donc c'est des besoins affectifs, savoir bien communiquer avec leur partenaire. Il y a des problématiques de jalousie.
Ça ressemble beaucoup à...
Ben, c'est ça, oui, c'est ça.
À tout ce que vivent les êtres humains en général.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et en quoi ça diffère justement d'une clientèle du même âge qui n'est pas en situation de handicap? Est-ce qu'il y a des différences?
J'ai l'impression que ça va aller moins vers la prévention, mettons, des ITSS, tu sais, ils habitent chez leurs parents, donc ça va être, ils vont beaucoup dépendre de leurs parents, mettons, pour les sorties, pour les rencontres, donc ça va être apprendre avec eux c'est quoi leurs besoins, apprendre à les exprimer, apprendre à défendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent, donc c'est ça, ils vont pas avoir les mêmes problématiques qu'une population qui a pas une déficience intellectuelle ou une trisomie 21, mais... comme d'un point de vue affectif, ça va quand même beaucoup ressembler.
Oui. Et quelles sont les activités que vous leur proposez?
C'est beaucoup des activités de discussion. Donc, je leur propose des thèmes dont on va discuter. On va essayer de comprendre de quoi on parle. On va faire des exemples, des mises en situation. Je vais leur demander de me parler de eux, qu'est-ce qu'ils ont vécu par rapport à cette thématique-là. Donc, c'est ce genre de situation-là.
Et quel genre, justement, de thèmes, de sujets que vous abordez avec eux?
Bien, la dernière activité, c'était les peines d'amour. On avait aussi vu la thématique de l'infidélité, donc d'être avec un partenaire à la fois ou au moins que les autres soient au courant.
Oui.
On a parlé des différentes orientations sexuelles pour essayer de défaire les préjugés. On a vu la différence entre les relations amoureuses et l'amitié, donc essayer de voir c'est quoi la différence entre un ami, qu'est-ce qu'on fait avec un amoureux, les différents comportements amoureux qu'on peut avoir, donc faire l'amour... Se toucher, s'embrasser, est-ce qu'on fait ça avec un ami ou juste avec un amoureux, donc ce genre de thématique-là.
Est-ce que vous sentez la pudeur, la gêne, est-ce qu'ils s'expriment facilement sur à peu près tous les sujets?
En fait, les premières activités que j'avais faites, je les avais faites en grand groupe, puis là, je voyais vraiment plus de timidité, donc j'ai essayé de faire des activités en plus petits groupes, donc je suis avec 4 personnes la majorité du temps. Puis les discussions se passent mieux, tu sais, on a vraiment notre petit groupe puis notre dynamique de groupe à chaque semaine, puis ils sont plus à l'aise. Aussi, la routine a aidé, là. Les premières fois, c'était plus gênant, puis maintenant, ils sont plus habitués de parler de ce genre de thématiques-là.
Ah oui, alors il n'y a pas de gêne à parler de peine d'amour ou de sujets peut-être encore plus... Je ne sais pas, est-ce que vous parlez d'allégations? On parle beaucoup d'allégations d'inconduite sexuelle. Est-ce que ça fait partie aussi des discussions?
Des fois, il y a des éléments comme ça qui sortent. Puis, en fait, je fais une intervention dans le sens où je leur dis, on va pouvoir en parler seul à seul, ensemble, après. Puis, c'est ça, pour la fin de mon stage, j'ai prévu une activité avec une association qui fait de la prévention pour les agressions sexuelles, puis il va y avoir une activité sur cette thématique-là. Mais oui, donc des fois ça sort, oui.
Et qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui a le handicap, là, qui est un enfant, c'est pas vraiment un enfant, c'est un jeune adulte.
Oui, c'est des jeunes adultes avec qui je suis.
Atteint de trisomie 21, qui vous dit « je suis en peine d'amour, je m'en sortirai jamais ». Comment vous l'abordez?
C'est ça, la discussion qu'on avait eue, c'était de trouver des moyens de se sentir mieux dans l'immédiat. Donc, leur dire qu'ils peuvent en parler, de ne pas rester tout seul avec leurs émotions, de se concentrer sur les choses qu'ils aiment aussi, de leur dire que c'est pas parce qu'ils se sentent comme ça aujourd'hui qu'ils vont se sentir comme ça toujours, de leur dire que c'est correct de se sentir comme ça aussi,
d'accueillir... Que c'est normal.
Oui, c'est ça, que c'est normal.
Oui.
Mais que c'est ça...
Que ça va passer.
ça va finir par passer.
Alors, quelles sont les choses les plus importantes que doivent savoir les parents de ces jeunes adultes?
Que doivent savoir les parents de...
Est-ce que vous les rencontrez, les parents?
J'en ai rencontré, en fait, j'ai rencontré des parents de plus jeunes enfants, donc c'est pas un sujet qui est très à jour
Non,
pour eux,
non.
c'est ça, mais...
Mais vous travaillez quand même sur un guide
C'est
d'éducation
ça, je travaille
sexuelle.
sur un guide d'éducation sexuelle, donc les problématiques que je vais voir avec ce guide-là, puis en fait, je vais faire une conférence pour présenter ce guide-là avec les parents, puis je vais pouvoir discuter avec eux
Ah
de ça,
ouais.
mais ça va beaucoup être... De commencer d'intégrer l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge. Donc, déjà, de leur montrer que la sexualité, c'est pas juste la génitalité, c'est pas juste faire l'amour, c'est aussi la communication, c'est le consentement, respecter les limites des autres, respecter ses propres limites. Donc, d'intégrer ça dans la vie de tous les jours, aussi de normaliser les discussions sur la sexualité. Donc, par exemple, mettons, ils vont aller voir un film avec leur enfant, il y a des thèmes sur la sexualité qui vont être vus, comment ils peuvent poser des questions là-dessus, comment ils peuvent c'est ça, voir comment leur jeune a reçu ça, essayer de défaire un peu les préjugés qu'il peut y
Faciliter
avoir.
la
C'est ça,
communication.
ouais.
Un grand merci, ça a été vraiment passionnant. Sophie Bédard, stagiaire en sexologie au regroupement pour la trisomie 21 en dernière année du baccalauréat. Alors, bonne fin de stage, dis-je bien, puis bonne continuité.
Merci beaucoup.
Les nouvelles régionales dans la nouvelle liste des préposés enceintes rappelées au travail. Le manque criant de préposés aux bénéficiaires dans les établissements du CIUS régional force le retour au travail de préposés enceintes qui bénéficiaient d'un retrait préventif. Le Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec a contacté 11 personnes le 9 février dernier pour les sommer de revenir au travail en raison des besoins en main-d'œuvre. Ces préposés ne reviennent pas à cette fonction, mais bien comme aide de service. Elles ne déplacent pas de patients, mais peuvent les aider à manger ou transporter des plateaux. La pénurie de préposés aux bénéficiaires n'est pas une nouvelle en soi, mais elle atteint un tel niveau que le CIU3S doit agir, ainsi confie Martin Beaumont. L'employeur a le droit de réassigner les gens en éliminant les risques. Si on est capable de le faire, on va le faire, déclare le président et directeur général du CIUS, de la Mauricie et du Centre du Québec. Ce n'est pas une pratique nouvelle, c'est pour donner un coup de main aux préposés aux bénéficiaires, ajoute Louis Brunel, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUS. En considérant les 11 préposés aux bénéficiaires nouvellement revenus au travail, le CIUS mise depuis quelques mois sur 27 préposés enceintes de retour d'un retrait préventif qui œuvrent comme aide de service. Une situation qui déplaît à Pascal Bastarache, président du syndicat du personnel paratechnique des services auxiliaires et des métiers CSN Mauricie et Centre du Québec. Nouvelle tirée de l'avenir et des rivières.com, Liana Adam a bon espoir de pouvoir retrouver le plein usage de ses bras grâce à une nouvelle pièce d'équipement qui vient tout juste de faire son apparition au Québec. Sa famille multiplie les initiatives afin de réunir les fonds nécessaires à l'acquisition de cette invention miracle. Le Supar à bras dynamique se vend 32 264 $ et n'est disponible au Québec que depuis 2 mois. Un représentant de Kinova, le distributeur québécois, est venu nous rencontrer à la maison le 30 janvier dernier et Liana a ainsi eu la chance de faire l'essai de cette pièce d'équipement qui se fixe à un fauteuil roulant. Atteinte d'amyotrophie spinale de type 2 et d'ostéopénie, Liana Adam a vu les muscles de ses bras et de ses jambes s'atrophier au fil des ans. Comme le gouvernement du Québec n'offre pas d'aide financière pour l'acquisition d'un support à bras dynamique, la famille Hull-Adam devra faire preuve d'initiative pour trouver les fonds nécessaires. Nous entendons aller frapper à toutes les portes et solliciter l'appui de diverses fondations. Nous comptons aussi avoir recours à diverses activités de financement, spectacles, lavoto et autres. Certains nous suggèrent par ailleurs d'avoir recours à une campagne de type GoFundMe, précise la mère de Liana, qui entreprend une collecte de canettes et de bouteilles vides via la page Facebook de Mélanie Hull. Liana Adam a également commencé à donner des cours de chant privé à son domicile pour les 8-12 ans. L'Association des professionnels en philanthropie a reconnu l'implication bénévole de Liana Adam en 2016 en lui décernant le prix Jeunesse par excellence en philanthropie chez les moins de 18 ans. Et au bout du fil, il y a Maxime Girard, fondateur de l'organisme Fondation 33. Bonjour, M. Girard.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va, merci. Qu'est-ce que l'organisme Fondation 33?
Eh bien, Fondation 33, c'est un organisme que j'ai créé il y a quelques années déjà. Et puis, moi, étant un ancien artiste de cirque qui a eu un accident et qui est maintenant tétraplégique, eh bien, suite à mon accident, j'ai décidé un peu de joindre mon ancienne passion avec ma nouvelle condition. Et c'est un organisme qui organise des spectacles de cirque. Mm-hmm. Et avec les fonds amassés, eh bien, on aide les personnes atteintes de traumatisme de la moelle épinière.
Ah oui, alors vous joignez, j'allais dire, l'utile à l'agréable. Vous avez été résilient dans tout ça?
Oui et non. Je vous dirais que le cheminement est toujours en processus. Mais
ça fait combien d'années que vous avez eu votre accident?
Ça fait 5 ans.
D'accord. C'est lors d'un spectacle au Moyen-Orient.
Exactement. Ouais. Je performais au Moyen-Orient et puis je me suis perdu dans les airs. Et puis bon, ça me prend juste une erreur pour avoir un accident. Et puis ça a donné comme ça. Mm-hmm. Et puis là, dans le fond, c'est ça.
Mais vous êtes quand même, on est en 2018, ça a pris 5 ans, ça a pris combien de temps avant de mettre sur pied l'organisme Fondation 33?
2 ans.
2 ans?
Ouais, pour... Je vous dirais que à un certain point, là, quand on termine notre réhabilitation, on cherche un peu tout là, un projet et puis tout ça. Donc moi, ça a été un peu, là, je voudrais, une urgence à ce moment-là de faire quelque chose pour me sortir la tête de l'eau. Donc, ah ouais. C'est vraiment comme ça qu'est née Fondation 33.
Est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous avez un entourage qui vous a encouragé à mettre sur pied Fondation 33?
Exactement, oui. C'est sûr que j'ai eu mes parents, j'ai eu de la famille, des amis. J'ai quand même un cercle social très présent. Et puis, vous savez, on dit souvent dans le milieu que la communauté circassienne est une communauté très serrée,
c'est
une grande famille. Alors, écoutez, quand il y a un accident ou il y a aussi des décès, des fois, dans ce type d'art-là. Donc, écoutez, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, la communauté, je dirais, se regroupe et est vraiment prête à s'aider les uns les autres. Donc, sans leur aide, évidemment, écoutez, il n'y aurait pas de spectacle. Hein.
Mm-hmm. Et quel genre de spectacle Fondation 33 présente? C'est un spectacle de cirque, mais quel genre?
Moi, j'ai une approche artistique, disons, un peu plus, je dirais, européenne, dans le sens que en Europe, c'est beaucoup des cabarets qui fonctionnent. Donc moi, c'est ça. C'est d'habitude, ce que je fais, c'est vraiment un cabaret intimiste. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les artistes se mélangent à la foule et on a vraiment l'impression de faire partie intégrante du spectacle. Donc, c'est pas un spectacle, je vous dirais, à l'italienne,
ouais.
où toute l'action se passe sur la scène et on a un public cordé en rangée là, en arrière. Donc, c'est vraiment, il y a des tables et d'habitude, je voudrais que je fonctionne avec plusieurs petites scènes éparpillées un petit peu partout dans le public. Donc, chaque personne a un peu l'occasion là, de voir de l'action de très près, de parler avec les artistes. Donc, c'est vraiment là, une expérience multisensorielle pour le public, je dirais.
Et est-ce qu'il y a plusieurs artistes qui participent à vos spectacles?
Oui, évidemment. J'ai toujours des artistes de cirque professionnels que je suis capable de contacter et d'avoir. Donc, c'est un peu, là, je vous dirais, un mélange d'artistes québécois et d'artistes internationaux qui tournent un peu partout à travers le monde.
Ah oui. Est-ce que vous avez présenté des spectacles un petit peu partout à travers le monde jusqu'à maintenant?
Pour l'instant, en tant que fondation et avec ce projet-là, ça s'est résumé au Québec. Mm-hmm. En ce moment, on, tranquillement, on essaie là, d'aller pousser en Europe. Mais tu sais, je vous dirais, là, je suis pas trop pressé non plus avec ça. Ça prend beaucoup de temps à mettre sur pied. Hein. Ouais. Tu sais, moi, j'ai commencé en 2015. On a fait une série de spectacles au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que moi, je suis natif de là. Et ensuite, on a fait une série de spectacles à Montréal. Ensuite, en 2016, ça a été une année complète de restructuration. Et aussi, il ne faut pas se le cacher, là, moi, je veux dire, ça fait juste 5 ans, donc j'ai encore besoin de beaucoup de temps pour moi.
Oui.
Fait que, tu sais, moi, là, je fais ça là, bénévolement à temps un peu perdu. Donc, là, j'avance tranquillement, mais sûrement.
Oui, oui, certainement. C'est la meilleure façon d'avancer, lentement mais sûrement. Est-ce qu'on peut s'informer pour s'informer pour connaître les prochaines dates de vos spectacles?
Je vous dirais que le plus simple, c'est vraiment de suivre la page de la Fondation sur Facebook, Fondation 33, et c'est là qu'on va être tenu au courant des prochains spectacles.
Est-ce qu'il y en a un qui s'en vient très, très bientôt?
En pourparler, mais je ne pourrais pas vous confirmer encore aujourd'hui. Fait qu'il faudrait vraiment suivre là, la page de la Fondation 33 pour être tenu au courant.
On va suivre ça. Et ça pique ma curiosité. Pourquoi le chiffre 33 après Fondation?
C'est pour les 33 vertèbres du corps humain.
Ah bon, d'accord. Bon.
Ouais. Alors, si je peux me permettre.
Oui, 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 allez-y.
Parce que là, c'est ça, on a récemment pris une entente avec Mémo Québec.
Oui.
Et puis là, justement, on est dans le processus redonné un peu. Donc là, on a pris une entente avec Mémo Québec sur 3 ans de 25 000 $ par année. Et puis là, on a créé un formulaire qui est en ce moment disponible au site de Mémo Québec, sur le site internet de Mémo Québec. Et puis là, les gens ont jusqu'à la fin du mois de février pour appliquer. Donc, si c'est des personnes qui ont un trouble de la moelle épinière et qui sont financièrement dans le besoin, donc, pour toutes sortes de raisons, ils peuvent faire une demande et on va redistribuer de l'argent au cours du mois de mars cette année.
Bien, un grand merci. Puis, c'est une information précieuse. Vous allez donner de l'espoir aux victimes de traumatismes de la moelle épinière?
Bien, c'est ça. Je vous écoutais avec le message que vous disiez et tout ça, avec le bras avant notre entrevue.
Oui.
Puis, exactement. Bien, tu sais, c'est des choses comme ça qui aident la vie des gens, mais qui ne sont pas nécessairement tout le temps couvertes par un agent payeur. Ben, tu sais, si la Fondation peut aider à leur défrayer une partie ou la totalité, bien écoutez, c'est un peu ça le but, là.
Maxime Girard, fondateur de l'organisme Fondation 33, merci, bravo pour ce que vous faites, puis bon courage pour la suite des choses.
Ben, merci beaucoup à vous.
Le Bloc national-international Résidence Elmwood, la direction, dépose une plainte de pratique déloyale. C'est sur le site de Radio-Canada. L'entreprise Elmwood Résidence de Saskatchewan a déposé mardi une plainte de pratique déloyale de travail 5 jours après que ses travailleurs syndiqués eurent entamé une grève. L'entreprise gère 11 foyers collectifs à Saskatoon qui offrent des soins à des personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans un communiqué, la directrice administrative d'Elmwood, Colleen Stenhouse, a déclaré qu'elle saisit la Commission des relations de travail de la Saskatchewan pour stopper ce qu'elle considère être une grève illégale de la part de ses employés. Les travailleurs du groupe Elmwood Résidence réclament une augmentation de salaire depuis 2013. Les syndiqués qui accompagnent les résidents dans leur quotidien ont prononcé un avis de grève la semaine dernière en indiquant qu'ils ne conduiraient plus les résidents au travail ni aux activités récréatives à partir de vendredi soir. Ces services ne sont pas vitaux pour les résidents, selon le vice-président du Syndicat international des employés de services de l'Ouest canadien, Neil Coleman. Le syndicat représente 75 travailleurs à Elmwood. L'entreprise a également déposé une demande d'ordonnance provisoire de la part de la direction au motif que la grève causerait des dommages irréversibles aux relations de travail des employés. Colin Steinhaus se dit très inquiète des répercussions que ces diminutions de services auront sur les résidents. Elle craint aussi que cette dispute n'escalade au point où les employés ne fourniraient plus aucun service pour faire pression sur la direction. Selon le journal anglais The Guardian, le réseau parisien n'est pas suffisamment accessible aux personnes en fauteuil roulant, mais à Londres, ce n'est pas mieux. La comparaison est largement en la défaveur du réseau parisien. Dans un article paru dans le journal britannique The Guardian comparant l'accessibilité des réseaux de transport en commun de 7 grandes villes dans le monde, Paris arrive bon dernier avec seulement 9 des 303 stations de métro accessibles aux fauteuils roulants. Ce n'est guère mieux à Londres qui en propose 50 sur 270. À l'inverse, toutes les stations de Los Angeles ou de Washington peuvent être empruntées par une personne à mobilité réduite. Ça complète l'émission d'aujourd'hui du 22 février 2018. Merci d'avoir été à l'écoute des Paractualités qui reprennent du service dès lundi. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche, Mathieu Tessier à la technique. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle fin de semaine. Merci aussi à mes invités Sophie Bédard, stagiaire en sexologie au regroupement pour la trisomie 21, ainsi que Maxime Girard, fondateur de l'organisme Fondation 33. Encore merci d'avoir été là. Au plaisir.